simplement, voilà, bonne année à ceux que je n'ai pas vus.
Voilà, on commence une nouvelle année, mais on est toujours dans le même texte, dans Corinthiens. Et avant de commencer, on va prier, on va remettre ce message que le Seigneur nous parle. Et mon Dieu, nous voulons d'abord te remercier parce que c'est un privilège que de pouvoir ouvrir ta parole, l'ouvrir librement, de pouvoir la sonder, de pouvoir nous nourrir de ce pain, un pain quotidien, de cette source, une source qui nous rafraîchit, qui nous donne vie. Seigneur, nous voulons te remercier parce que ta parole est fidèle, elle subsiste éternellement. Et Seigneur, lorsque nous nous accrochons à elle, nous avons aussi cette vie, la vie éternelle qui est en toi. Merci pour cette vie, merci parce que c'est toi, Seigneur, qui a donné ton Fils pour que nous puissions l'avoir, alors que nous ne sommes rien, des pécheurs. Nous ne sommes que des hommes faibles, prêts à tomber. Mais toi, Seigneur, tu nous soutiens, tu nous relèves. Tu es le Dieu qui ne change pas. Merci pour ta personne. Merci parce que cette personne, elle vit en nous qui avons cru en Christ. Merci parce que tu as daigné faire de nous ta demeure. Merci pour cette grâce. Aujourd'hui encore, je te prie pour que notre Église connaisse ta grâce, cette grâce qui vient de ta parole, qui vient de toi. Que chacun puisse se nourrir, prendre la part qui lui est nécessaire afin de grandir, être affermi. Merci Seigneur parce que tu le feras, tu es fidèle. Voilà pourquoi Seigneur, je te loue dans cette assemblée. Et Seigneur, je te prie encore que tu puisses te glorifier à la fin de ce culte. Sanctifie cette prière. Amen. Donc voilà, oui, c'est une grâce de pouvoir encore nous plonger dans la parole de Dieu, de pouvoir nous plonger dans cette lettre aux Corinthiens. La promesse de cette lettre à laquelle nous nous attachons depuis le début, eh bien, c'est d'être conforme à l'appel de Jésus-Christ, c'est-à-dire vivre dans la sainteté. C'est le but, c'est ce que nous avons dit depuis le début. S'éloigner du mal, c'est ça la sainteté. S'éloigner du problème des Corinthiens, des divisions, des rivalités, mais être un corps uni dans la communion du Fils de Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ. C'est bien ça le but. Un même langage, un même esprit, un même sentiment. Depuis le début, il annonce, il ne va pas passer du coq à l'âne et changer de sujet. Le problème, il a toujours été là, et le problème est toujours là. Et pour résoudre ce problème, il va nous indiquer les solutions. La solution, ce n'est pas un langage éloquent afin que nous soyons le centre d'attention et que tout le monde soit ébahi en se disant oh, « Magnifique la prédication !» Non, c'est tout simplement de ramener toujours à Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Ce n'est pas non plus un esprit de jalousie, de dispute qui se déclare de telle ou telle partie. « Ah, moi je préfère quand même lui, moi je préfère machin, c'est beaucoup mieux. » Non, ce n'est pas critiquer, dénigrer les autres. Mais c'est l'Esprit de Christ qui nous pousse juste à nous éloigner du péché. Non pas un sentiment égoïste, ne cherchant à l'Église que ce qui lui plaît, le message qui lui plaît, les activités qui lui plaisent, les dons qui lui plaisent, mais un sentiment qui recherche constamment l'intérêt des autres. La pratique régulière d'une activité, la connaissance, ce n'est pas ça qui a été demandé. Mais le sentiment de Dieu qui est manifesté en Jésus-Christ. Et quel est-il ? C'est l'amour. C'est l'amour. Un mot qui aujourd'hui est un mot qui veut tout dire et rien dire. Mais dans le Seigneur, il a un sens bien précis. Et l'amour, ce n'est pas quelque chose qui peut venir de nous. C'est l'amour de Dieu. Donc si vous voulez le recevoir, il faut s'attendre à ce que qui le donne ? Dieu. Si vous cherchez à le produire par votre vie habituelle, est-ce que c'est possible ? Vous ne pouvez pas. C'est pour ça qu'il nous a donné le moyen de vivre cet amour, son esprit. Et c'est ce qu'il présente dans ce texte, dans cette lettre. En effet, pour grandir dans cette vie de sainteté, nous avons besoin d'être édifiés. Mais quelle est la seule chose qui édifie ? La connaissance enfle, mais l'amour édifié. Vous connaissez ce verset, on l'a déjà lu. Donc si on veut être édifié, si on veut grandir, il le répète, il n'y a qu'un moyen. C'est l'amour. On se dit, mais quand même, on ouvre la Bible, est-ce que ce n'est pas être comblé de la parole? Est-ce que ce n'est pas pratiquer les activités régulières à l'Église? Bon, les Corinthiens, il est dit d'eux, on peut arriver dans 1 Corinthiens 1:5, hein, il faut se rappeler d'une chose. Est-ce que les Corinthiens manquaient de la parole de Dieu? Est-ce que les Corinthiens manquaient du témoignage de Christ? Paul dira, en effet, en lui, vous avez été comblés de toutes les richesses. En pratique, en particulier en ce qui concerne la parole et la connaissance. Et il continue. Dans la mesure où le témoignage de Christ a été solidement établi parmi vous. Ainsi, il ne vous manque aucun don à vous qui attendez le moment où notre Seigneur Jésus-Christ apparaîtra. Ils sont riches, riches de la parole. Il leur manquait quoi comme don? Rien du tout. Pourtant, est-ce que leur vie correspondait à des personnes qui étaient enrichies? Ils vivaient comme des pauvres. Mais il leur manquait quoi? Il leur manquait l'amour. Leur réputation dans la ville, ce n'était pas d'être des saints. C'était d'être des personnes qui se disputaient, qui avaient des divisions. Des jaloux, qui se dépouillent entre eux, qui vivent sans se soucier même de la débauche qui était au milieu d'eux. Pourtant, ils sont riches. Comment c'est possible? Ils ont été comblés de toutes les richesses, c'est ce qui est écrit. Pourquoi, et c'est la question que l'on doit se poser, n'ont-ils pas avancé dans la sainteté? Et nous posons la question pour nous, pourquoi stagnons-nous? Voire, devenons même de pire en pire. C'est ce qui est dit des Corinthiens. Malgré toutes les paroles qui ont été enseignées, malgré la connaissance que nous avons, malgré le savoir sur le témoignage de Christ qui est solidement établi parmi nous, malgré les dons dont nous disposons, il manque l'essentiel. On l'a vu. Il faut passer par la bonne voie, la voie par excellence, la seule par laquelle le corps s'édifie, la seule par laquelle nous avons été édifiés nous-mêmes, la seule par laquelle nous pouvons édifier les autres, l'amour. Je le répète, la connaissance enfle, mais l'amour édifie. Alors je vais vous poser une question. Aimez-vous cette Église? Est-ce que vous l'aimez? Si vous ne l'aimez pas, vous n'amènerez jamais d'édification. Si vous n'aimez pas telle qu'elle est, pas telle que vous espérez qu'elle soit demain, telle qu'elle est aujourd'hui, vous n'amènerez jamais d'édification. Vous allez amener quoi? La destruction. Est-ce que vous aimez chaque personne de cette assemblée? Tournez à gauche, à droite et posez-vous la question. Est-ce que j'aime cette personne? Ou je dis non, mais moi d'abord. Tant pis pour lui. Est-ce que vous recherchez l'intérêt de tous? Ou comme les Corinthiens, nous cultivons le chacun pour soi, moi je suis de moi, et la division, la jalousie, les rivalités. Et au lieu d'avoir l'amour, ils avaient l'envie, voulant la place des autres. Ils se vantaient, pensaient être meilleurs que les autres, enflés d'orgueil, n'écoutant rien, ne respectant pas l'ordre établi par Dieu, agissant de manière malhonnête, cachant leur véritable intérêt, cherchant uniquement leur propre intérêt, s'irritant sur tout ce qui ne va pas dans leur sens, sur tout ce qui ne sont pas dans leur sens. Voyant le mal constamment chez tout le monde, ils sont devenus ennemis les uns les autres, au lieu de s'aimer les uns les autres. Ils se réjouissaient même du malheur des autres, plutôt que d'édifier les autres. Vous vous souvenez, Corinthiens 13, hein, ce que l'amour n'est pas, c'est exactement tout ce que mettaient en pratique les Corinthiens. Aimez-vous. Si vous n'aimez pas, vous ne pouvez pas être en communion avec Dieu. Vous ne pouvez pas servir Dieu. Sans amour, je ne suis rien. Sans l'amour, tous les ministères ne servent à rien. Vous travaillerez en vain. C'est pour ça que c'est central. Ce n'est pas optionnel. S'il y a des choses où on peut être caduque et dire « bon, ça, je ne sais pas trop faire, mais on verra plus tard », il y en a. Mais l'amour, Jésus dira, c'est à ceci que vous reconnaîtrez que que vous êtes mes disciples. Et c'est donc quelque chose qui est important pour qu'on reconnaisse qui dans notre vie? Jésus-Christ. et que nous sommes quoi ? Ses disciples. Ne le faites pas, et les gens verront autre chose. Mes frères et sœurs, sachez-le, Dieu est amour. Et si un fruit doit être visible chez celui en qui il habite, quel est-il à votre avis ? L'amour. Ce ne sont ni les langues, ni la prophétie, ni la connaissance, mais ce fruit qui demeure éternellement, c'est quoi ? C'est l'amour. Vous savez, tous ces ministères vont s'arrêter. Hein ? Tous les ministères que vous faites dans l'église, quand vous serez au ciel, à part peut-être le chant, tout va s'arrêter. Il n'y aura plus quelqu'un qui va être un prédicateur. Il n'y a plus quelqu'un qui va s'occuper de ci, ça, gauche, droite, il n'y aura plus ça. Il n'y a qu'une seule chose qui va perdurer éternellement, c'est quoi ? C'est l'amour. Et commencez ici. Ce que vous allez vivre, là-haut. Mais si vous investissez dans des choses en vous disant le plus important c'est ça alors que ça va disparaître, c'est dommage. Sans l'amour, toutes ces choses valent quoi ? Rien. Les Corinthiens s'étaient détournés de cette voie. Ils considéraient que leur connaissance, leur don, les dons qu'ils désiraient, comme étant plus important, que leurs frères et sœurs. Ils étaient prêts tout. Tous veulent être quoi ? Apôtres. Tous veulent être quoi ? Prophètes. Tous veulent être quoi ? Enseignants. Faire des miracles, des guérisons. Ils veulent tous quoi ? Des dons. Quitte à se disputer avec tous ceux qui sont dans l'Église. Et pourtant, est-ce que vous croyez que ce qui se passe dans une église est hors de contrôle de Dieu ? Peut-être ma question n'est pas claire, mais on va lire un passage. On va prendre 1 Corinthiens 12, versets 18 à 21. Ce que demandait la parole, on verra au verset 25, mais c'est de prendre soin les uns des autres. Mais parfois, on peut considérer que les autres sont inutiles. Et que le seul qui soit utile, c'est nous. Pourtant, il est dit que Dieu a placé chacun des organes, ou chacun des membres, dans le corps, comme il l'a voulu. Nous, on se dit, bon, dans l'église, c'est nous qui avons dit que machin était là, machin voulait être là. Là, qu'est-ce qui est écrit ? Verset d'avant. Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il l'a voulu. Vous le croyez ? En tout cas, c'est écrit. Si quelqu'un fait quelque chose dans l'église, c'est la volonté de qui l'a placé ? C'est Dieu. Mais nous, on croit que c'est nous qui dirigeons tout. Nous, on croit que la situation, si elle n'est pas bonne, c'est nous qui allons la résoudre. Non, mais je vais mettre en place. Et on ne respecte plus ce qui est là. Mais ce qui est placé là, c'est qui l'a placé ? C'est Dieu. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Verset, le suivant. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps ? Parce que nous, on considère qu'un membre est important et que les autres, ce n'est pas très important. Et on pense que quand Dieu a mis quelque chose en place, « Oh, mais ça va, c'est secondaire. » C'est celui-là qui est le plus important. Mais il dira quoi ? Le suivant. Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. Et on continue. L'œil ne peut pas dire à la main, « Je n'ai pas besoin de toi. » Ni la tête dire aux pieds, « Je n'ai pas besoin de vous. » Vous vous rendez compte que cet exemple, c'est dans un corps, c'est assez logique. Hein. Nous, on sait qu'un œil ne peut pas dire à la main, « J'ai pas besoin. » Ni la tête, ni les pieds. Mais parfois, on réagit comme ça. Oh, le plus important, c'est l'œil. Mais l'œil, il en a besoin pour observer. Mais sans les mains, vous ne pouvez rien faire, rien saisir. La tête est très importante. Il y a besoin de diriger. Mais s'il n'y a personne pour marcher, on n'ira pas loin non plus. Et critiquer les uns les autres, que la tête critique les pieds, que les yeux critiquent les mains, ou vice-versa, c'est ce qu'on appelle détruire l'œuvre que Dieu a mis en place. Parce que qui a mis en place chaque organe dans le corps ? C'est Dieu. Et parfois, nous sommes comme ça. Nous pensons être plus intelligents que Dieu. Moi, je n'aurais pas fait comme ça. Hein. Moi, je n'aurais pas mis lui. Hein. Moi, je n'aurais pas fait ceci. Hein. Moi, je crois que Dieu fait les choses. Mais il nous demande, nous, de faire une chose. Et qu'est-ce qu'il nous demande? Sans quoi tout ce que nous faisons ne vaut rien. C'est aimer. Mais ça veut dire quoi aimer? Verset 25. Qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Les Corinthiens, est-ce qu'ils prenaient soin les uns des autres? Ils se tapaient les uns dessus et dépouillaient les uns les autres. Est-ce que c'est ça vraiment l'image d'une église de Christ? Est-ce que Christ est venu pour dépouiller tout le monde? Ou il est venu pour prendre soin des uns et des autres? Si vous n'avez pas ce témoignage dans votre vie, si vous êtes toujours en train non seulement de parler mal, mais d'agir mal, ce n'est pas l'œuvre de Christ que l'on fait. Il y a quelqu'un dont c'est le rôle. L'accusateur, le calomniateur, ce n'est pas Jésus-Christ. Mais nous travaillons pour Jésus-Christ. Voilà pourquoi notre Église doit avoir une image qui est celle d'amener les gens à Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié, qui s'est dépouillé de sa vie pour nous. Que sommes-nous prêts à nous dépouiller? Même pas de, parfois de petites choses, d'une petite place. Et c'est la critique que Paul fait aux Corinthiens. Croyez-vous que nous avons mérité, quelle que soit la place que nous avons dans l'Église, et quand je dis l'Église avec un grand E, est-ce que vous avez mérité la place pour rentrer dans l'Église? Est-ce que quelqu'un vaut mieux qu'un autre lorsqu'il rentre dans l'Église, ou le fait qu'il rentre dans l'Église, il le doit à Jésus-Christ et Jésus-Christ seul? Et alors si Dieu décide de placer une personne, de faire ce qu'il veut avec telle ou telle personne, c'est une grâce. Et quand Paul est en train de s'adresser là aux Corinthiens, il s'adresse en tant qu'apôtre. Est-ce que tout le monde était d'accord dans l'église de Corinthe à écouter cet apôtre? Mais qui a fait de lui apôtre? Est-ce qu'il a été fait apôtre par les hommes? Par l'ordre de qui? De Dieu. Et il va avoir des apôtres, des prophètes, des enseignants, ceux qui ont donné des miracles, ceux qui ont donné des langues là-dedans, ceux qui ont donné des guérisons. Et si chacun a une place, c'est que c'est Dieu qui l'a donné. Et le problème de l'église de Corinthe, c'est que il n'aimait pas ça, l'ordre. Et pourtant, lorsque Dieu vient dans notre vie, il vient mettre de l'ordre. Le vrai problème, déjà, c'est que il remet de l'ordre dans les priorités, dans celui qui dirige. Avant, qui est-ce qui dirigeait ma vie? C'est moi. Maintenant, il a mis de l'ordre. Celui qui dirige ma vie, c'est censé être qui? Censé être qui? Qui est le chef de tout homme? Jésus-Christ. Vous êtes d'accord? On l'a vu. Jésus-Christ est chef de tout homme, l'homme est le chef de la femme, et Dieu est le chef de Christ. Donc Dieu n'est pas un Dieu désordonné. Il a mis un ordre. Et même Jésus-Christ, il a quoi? Un chef. Et quand il aime, il dit qu'il fait tout ce qu'il doit faire, c'est son chef. Et on se dit, oh, mais c'est trop terrible ça, on ne peut pas faire ce qu'on veut. Mais Jésus-Christ, il n'a pas parlé de faire ce qu'on veut, ni pour lui, ni pour nous. Il a parlé de quoi? D'obéissance. Mais nous, nous voulons faire ce qui nous plaît. Mais ce n'est pas ça l'amour. 1 Jean 2, 5 nous dit quoi? Celui qui garde ses commandements, l'amour de Dieu est parfait. On le lit, hein, 1 Jean 2, 5. Mais l'amour de Dieu est véritablement parfait en celui qui garde sa parole. Par cela, nous savons que nous sommes en lui. L'amour de Dieu ne vient pas des hommes. Elle vient des commandements de qui? De Dieu, que l'on garde. C'est pour ça que quand Paul s'adresse aux Corinthiens, il va leur dire de quoi? Il faut écouter les commandements de Dieu. Et il va leur amener là un commandement. Il va le dire. Et nous avons été sauvés par un commandement. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Mais si tu n'acceptes pas ce commandement, tu ne gardes pas cette parole, tu ne peux pas connaître l'amour de Dieu et tu n'es pas en lui. Si vous ne croyez pas que Jésus-Christ vous sauve de vos péchés, ne vous attendez pas à connaître l'amour de Dieu. Parfois les gens disent « Ah, mais Dieu aime tout le monde ». Oui, 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 Dieu aime tout le monde, mais vous ne connaîtrez jamais son amour si vous ne gardez pas quoi? Sa parole. C'est en gardant sa parole que vous connaîtrez son amour. C'est la puissance de Dieu que de faire connaître cet amour, mais uniquement par sa parole. Est-ce que vous avez reçu cette parole? Si ce n'est pas le cas, elle est toujours là. Elle subsiste éternellement. Tant que vous êtes vivant, vous pouvez vous y accrocher. Elle subsistera éternellement. Pas vous. À un moment donné, vient la mort et on ne peut plus s'y accrocher. Il faut s'y accrocher maintenant. C'est pour ça que la parole de Dieu doit être le centre pour que nous puissions avoir l'amour. Et c'est, on va arriver au chapitre 14, on y était déjà les deux dernières semaines, mais je vais reprendre juste les trois premiers versets. Et dans ce chapitre, il y a la mise en pratique de l'amour au milieu de l'assemblée. Et l'amour qui édifie, édifier les autres. Et il nous dira une chose simple, justement pour édifier, rechercher quoi? L'amour. S'il faut chercher quelque chose, c'est l'amour. Aspirer au don spirituel, mais surtout à celui de prophétie. Continue. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Vous avez vu les deux dernières semaines, les sujets parlant du don de parler les langues. Je ne vais donc pas revenir dessus. Mais il y a quand même une comparaison dans ce passage. Par rapport à ce qui a été exposé depuis, une chose est claire, il faut rechercher l'amour. Aspirer au don spirituel, mais surtout à celui de prophétie. Pourquoi celui de prophétie? Celui qui parle en langue, dit le verset 3. Verset 2 alors. Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes. C'est déjà clair depuis le début. Si vous parlez en langue, vous vous adressez à qui? Pas aux hommes. Donc ça va être utile pour les autres? Non. Mais à Dieu, bon d'accord, Dieu le comprend. Mais personne dans la salle ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères, donc personne ne le comprend. Et si personne ne comprend, comment est-ce qu'il va faire pour édifier les autres? Grosso modo, il fait un discours solo. Et les autres, moi je fais mon point. Et il continue, hein, il dit... Par contre, celui qui prophétise, au contraire, c'est le contraire. Il parle à qui? Aux hommes. Donc, il va faire quoi? Édifier, exhorter, consoler. C'est l'amour. Il va ramener quelque chose qui va affermir ceux qui se trouvent à l'écoute. Édifier, exhorter, consoler. C'est pour ça qu'il faut aspirer à ce don de prophétie. C'est un don qui a une utilité majeure dans la fonction de l'Église. Parler aux hommes, édifier, exhorter, consoler. Donc il répond à ce besoin qui est de rechercher l'amour, parce qu'elle est destinée à édifier tout le monde. Tout ce qu'il faut pour progresser dans la sainteté. Mais on va lire le développement, versets 24, 25, concernant cette prophétie. Si tous prophétisent et qu'il entre un non-croyant, ou un simple auditeur, il est convaincu par tous, il est jugé par tous, les secrets de son cœur sont dévoilés, de telle sorte que tombant sur sa face, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de nous. À quoi amène la prophétie? À une conviction, à un jugement, qui va amener même à dévoiler, la suite, les secrets de son cœur. Je vais vous poser une question. Hein. Est-ce que vous pensez que c'est utile pour la sainteté? Est-ce que ça permet de sanctifier? Est-ce que ça permet d'édifier ce qui est là? Dévoiler les secrets du cœur de quelqu'un. À quoi sert de dévoiler les secrets du cœur de quelqu'un? Moi, je ne connais pas ce qu'il y a dans les cœurs de tout le monde. Déjà, dans le mien, parfois, j'ai du mal à me perdre. J'ai du mal à me retrouver, plutôt. Mais apparemment, quand il y a une prophétie... Elle est capable de dévoiler exactement quelque chose qui est voilé. Donc que personne ne peut peut-être voir. Et peut-être que vous, vous en rendrez même pas compte. Vous mettiez un voile sur ce sujet-là. Mais quand la parole vient, la parole de la prophétie, les secrets de cœur sont dévoilés. Et tellement qu'il a fini par tomber sur quoi ? Vous voyez un petit peu quel mouvement c'est, hein ? Le visage, il se retrouve où ? À terre. Il vient de se rendre quelque chose qu'il a mis à terre. Et la parole de Dieu, ne vous étonnez pas si elle rentre dans vos vies et qu'elle vous met comment ? À terre. Que vous vous rendrez compte que vous êtes où ? Quand vous entendez cette parole ? En bas. Mais que qui est en haut ? Il adorera qui ? Dieu. Et si, après une prédication, on n'arrive pas à faire comprendre aux gens que Dieu est en haut et que nous, nous sommes à terre, c'est compliqué. C'est compliqué, ça veut dire que on n'a peut-être pas amené une prophétie. On a amené quoi ? Peut-être nos idées. C'est pour ça qu'il dit qu'il publiera même que Dieu est réellement au milieu de vous. Il s'est rendu compte que dans ce message, qui est-ce qui a parlé ? Qui est-ce qui a mis tout ça en place ? C'est Dieu. Et là, on parle de quelqu'un qui n'est pas un chrétien, c'est un quoi ? Un non-chrétien, un homme, un simple auditeur ou un homme du peuple, selon les traductions. Donc c'est quelqu'un qui rentre dans l'église, il ne sait même pas ce qui se passe. Et là, il voit quoi ? Ah, Dieu se trouve au milieu de cet endroit. Et en entendant quoi ? La parole. Pas en voyant des choses, des miracles ou je ne sais quoi, il entend dans quoi ? La prophétie. La parole, la prophétie, nous amène toujours à communier avec Dieu et avec ceux qui publient son nom aussi et qui l'adorent. Qui pouvait sonder les secrets du cœur ? Pas mes paroles, pas vos paroles, uniquement la parole de Dieu. Et quand un prophète parle, ce sont les mots de Dieu qui sortent de sa bouche. Vous voyez derrière ce pupitre, et je vous annonce la parole de Dieu. Mais lorsqu'on voulait savoir ce que Dieu avait à dire auparavant, vous pensez qu'ils ouvraient ça de cette manière ? Vous vous souvenez dans l'Ancien Testament ? Bon, qu'est-ce que je dois faire ? Et l'exemple de Saül, il a dit quoi ? Il faut que j'aille voir qui ? Samuel. Samuel, qu'est-ce que je dois faire ? Et je vais demander à Dieu. Et Dieu va lui dire, voilà ce que tu dois faire. Donc, ce que disait Samuel, c'était la parole de qui ? Moi, je ne vous annonce pas réellement la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle est là. Je ne fais juste que vous exposer ce qui est écrit dedans. Je ne suis pas un prophète, hein. Je ne suis pas un prophète. La prophétie, elle est où ? Elle est ici. Et je ne peux pas vous amener quelque chose et Dieu ne me dit pas un message direct pour rajouter quelque chose qui se trouve déjà là-dedans. Tout est déjà là-dedans. Les paroles des prophètes ont pour valeur d'être la parole de Dieu. Oui, lorsqu'on voulait savoir quelque chose, vous pouvez aller voir Samuel, Nathan, Isaïe, Paul, Pierre, Jacques. Les apôtres et les prophètes donnaient directement la réponse de Dieu. La preuve est, poser des questions, Paul a renvoyé une lettre. Quelle est cette lettre ? Un Corinthien. Et aujourd'hui, on l'appelle comment ? La parole de Dieu. Moi, si j'écris un livre, vous ne l'appellerez pas la parole de Dieu. Vous l'appellerez le livre de Hando. Il y a beaucoup de fautes dedans. Mais un prophète, un apôtre, lorsqu'il parle de la part de Dieu, il n'y a pas d'erreur. Et c'est exactement, il répète ce que Dieu disait. Et ils avaient besoin de ça. Pourquoi ? Pour la même bonne raison qu'ils ne peuvent pas faire ce qu'on fait aujourd'hui. Ils ne peuvent pas ouvrir le Nouveau Testament. Ils avaient l'Ancien. Oui, c'est très important l'Ancien. Mais tout ce qui convient à l'ordre de l'Église, tout ce qui convient à la vie de l'Église, tout ce qui convient à la vie en Jésus-Christ, se trouve où ? Alors, il y a l'ombre dans l'Ancien Testament, mais la réalité, elle est en crise dans le Nouveau Testament. Et vous vous imaginez bien qu'ils n'avaient pas tout. Il leur fallait encore quoi ? Des personnes qu'il fallait voir pour dire comment est-ce qu'on doit faire ? Et c'est ce qu'ils faisaient là par rapport à Paul. Ben, il y a ça comme problème. Qu'est-ce qu'on doit faire ? Et Paul, il leur dit quoi ? Faites ceci, faites cela. Et certains ne croyaient pas que Paul était un apôtre de Dieu, donc ils ne voulaient pas écouter. Mais lorsque vous posiez la question à Paul sur l'Église, qui avait une meilleure connaissance que lui, même parmi les apôtres, si c'est lui qui écrit, il avait une bonne connaissance de l'Église. Qui lui avait annoncé toutes les choses de l'Église ? Qui lui parlait directement ? Vous voyez un Corinthien, hein ? Ah pardon, quand le début du Corinthien, en acte 18, il va dire que Jésus va lui dire quoi ? Même de rester là, d'annoncer la parole. Il lui parle directement. Pourquoi ? Parce qu'il devait transmettre tout cela, comme il nous l'a transmis ici. Aujourd'hui, ce ne sont plus des messages partiels que nous avons. À l'époque, quand il y avait ces prophètes, les messages étaient partiels. Posez une question, ils répondaient à la question et au sujet. Corinthiens répond. Vous tournez un livre de Corinthiens, ah, il y a quelque chose d'autre. Vous tournez un Pierre, il y a quelque chose. Deux Pierres, il y a quelque chose. Un Jean, deux Jean, trois Jean, tout, il y a quelque chose. Et pourtant, il a beau avoir des choses différentes, le sujet est quand même le même. C'est Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Il est le centre. Et dans aucun, il va dire, ne pratiquez pas l'amour. Aucun ne dit ça. Voilà une chose plus importante que l'amour. Il ne dit pas ça. Il dit toujours la même chose, c'est que c'est l'amour qui édifie. De différentes manières, on l'a vu dans 1 Jean 2,5. Cette lettre aux Corinthiens est la preuve directe que lorsque nous voulons trouver le conseil de Dieu pour une église unie, eh ben, il faut aller consulter un Corinthien. Parce que c'est le problème. Une église qui est comment ? Divisée. Une église qui est dans le désordre. C'est la parole de Dieu, non pas notre parole. Certains pensent encore aujourd'hui que leur parole équivaut à la parole de Dieu, pensent être des prophètes. Ils écrivent des livres, ils estiment qu'ils sont égaux à ce livre. Beaucoup de sectes disent, pour comprendre la Bible, il faut que tu aies ce livre-là. Donc, c'est ce livre qui prévaut sur celui-là. Et beaucoup de prophètes parlent et disent, « Oh, j'annonce une nouvelle chose, tout ça c'est fini, maintenant il y a autre chose. » Leur parole croit être au-dessus de la parole de qui ? De cette parole-là. Mais il va l'enseigner, Paul. Il le dira plus tard, mais je le dis déjà, l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Vous ne pouvez rien dire, même s'il y a quelqu'un qui pensait être prophète, qui soit hors de ce qui est écrit ici. Ce n'est pas possible. Le don de prophétie est le don utile pour l'édification. Voilà pourquoi il existe, mais pas chez les gens. Il existe ici. Et si vous voulez être édifié, vous avez besoin d'ouvrir ce livre. C'est pour ça que tous les dimanches, toutes les réunions, tout ce que l'on fait, nous faisons quoi ? Nous ouvrons la Bible. Sinon, ça sert à quoi ? C'est inutile. On ne peut pas transmettre l'amour de Dieu sans que les personnes gardent le commandement de Dieu. Donc nous avons besoin d'annoncer les commandements de Dieu. Parfois les gens peuvent dire, ouais, mais la Bible, toujours la Bible. Oui, mais si on vous aimait pas, si on vous aimait pas, on ne l'annoncerait pas. Mais puisqu'on vous aime, on est obligé de vous annoncer la seule chose qui puisse vous édifier. Ces paroles, ces commandements. Le don de prophétie est le don majeur. Mais tous ne sont pas prophètes dans l'église de Corinthe. Et il n'y a pas qu'un seul don. Mais quel que soit le don, il doit édifier. La priorité de l'Église, c'est d'édifier. Élever un édifice qui est pour la gloire de Dieu. Affermir les membres présents. Prendre soin les uns des autres. Agir de façon à ce que les non-croyants et les gens du peuple puissent connaître Jésus-Christ. Jésus-Christ crucifié, celui qui les a aimés. Alors si vous n'êtes pas prophète, même dans le culte, il y a d'autres choses. Il va l'expliquer au verset 26. La suite. Que faire donc, frère ? Lorsque vous vous assemblez, aujourd'hui on est comment ? On est assemblés, on est d'accord, hein ? C'est un jour comme aujourd'hui. Les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique ? Ça va, on chante des cantiques. Une instruction ? Un enseignement ? Une révélation ? Elle est là-dedans. Une langue ? Tout est là-dedans. Que ce soit quel que soit le pays, vous avez une langue différente, mais tout est là, une interprétation. Si quelqu'un parle dans une langue qu'on ne comprend pas, il va l'expliquer plus tard, il va falloir interpréter. Ça n'édifie pas. Que tout se fasse pourquoi, il est dit ? Pour l'édification. Et dans l'assemblée, un dimanche ou à chaque fois qu'il y a une réunion, si vous faites quelque chose, que ce soit pourquoi ? L'édification. Et c'est ce que l'on fait. On ramène la parole, qu'elle soit chantée, qu'elle soit enseignée, qu'elle soit lue. On la ramène. Toujours. Chacun a ses dons. Mais dans l'assemblée, celles qui sont utiles le dimanche, et je dis bien le dimanche, ce sont ceux que nous avons là. C'est là où lorsque nous assemblons tous. Mais il n'empêche de faire du bien hors du dimanche, hors des jours de culte, hors des jours d'assemblée. Et quand il y avait des dons, il y avait d'autres dons à cette époque-là qui ne sont plus utiles aujourd'hui, mais qui sont utiles hors de l'assemblée, hors des moments où nous nous réunissons tous. Et il n'en parle pas ici. Est-ce qu'il parle ici du don des miracles ? Est-ce qu'il dit ici du don du guérison ? Il n'en parle pas. Mais ce qui édifie, ce n'est pas ça. Ce qui édifie, tous ces dons, quantiques, instruction, révélation, langue, interprétation, ça concerne quel domaine ? Qu'est-ce que vous êtes tous obligés de faire à ce moment-là ? Ce qui vient de la bouche, non ? Tant que l'édification, elle vient d'abord de quoi ? De la manière dont vous parlez. Et s'il faut ouvrir la bouche, il vaut mieux que ce soit quoi ? Un cantique, une instruction, une révélation, une langue d'interprétation, mais que tout se fasse pour l'édification. Le reste vient, mais n'est pas utile pour l'édification, et je parle bien de l'édification. Sans l'avantage que nous avons avec la Bible entière, il est difficile de voir tout clair. Nous avons un énorme avantage. Nous pouvons consulter des choses dans cette parole que les Corinthiens ne savaient pas. Et nous avons tout ce qu'ils savaient. Les dons listés ici, spécifiquement, sont liés au rassemblement des chrétiens. Et nous savons maintenant, aujourd'hui, mais comment édifier une église ? Les dons où l'on ouvre la bouche. Nous voyons que Paul ne mentionne pas les autres dons, seulement ceux qui se basent sur cette parole. Dans cette lettre, par l'écrit de Paul, Dieu nous édifie. Il nous donne une solution pour amener l'unité. Avant de chercher l'intérêt de tous, avant de chercher notre propre intérêt, c'est plutôt chercher l'intérêt de tous que tout se fasse pour l'édification. Est-ce qu'on se pose cette question lorsqu'on va faire quelque chose ? Est-ce que ça va édifier ? L'amour édifie. Si on ne va pas amener l'édification, c'est qu'on manque de quelque chose qui s'appelle l'amour. Rechercher l'amour. C'est ce qui manquait aux Corinthiens. Qu'en est-il pour nous ? Que recherchons-nous lorsque nous nous assemblons ? Paul demande aux Corinthiens dans toute cette lettre d'aimer et donc se dépouiller. Il semble que tout le monde, ils étaient comblés de dons, hein. Mais qu'est-ce que c'était dans le désordre ? C'était tellement dans le désordre que Paul il a dû dire « Bon, vous allez faire comme ça. » C'est un petit peu comme une cacophonie. Tout le monde parle quand il veut, s'il le veut, et personne ne respecte les ministères de personne. On dit la suite, verset 27. En est-il qui parle en langue ? Ah, que deux ou trois au plus parlent. Ça veut dire qu'ils étaient combien à parler ? Je ne sais pas combien il y avait de membres dans cette église, mais si c'est 200, 300, 400, ça devait être très compliqué. Hein ? Et chacun a son tour, même pas les trois en même temps. Donc même s'il fallait mettre cette pratique, il y a un ordre, chacun a son tour. Et surtout, c'est important que quelqu'un interprète. On continue. S'il n'y a pas un interprète, voilà ce que vous devez faire. Qu'on fasse quoi ? Qu'on se taise dans l'église. Ça n'a pas d'utilité dans l'assemblée. Ça ne va édifier personne. Alors s'il vous plaît, qu'on se taise dans l'église. Et qu'on parle à soi-même et à Dieu. Adressez-vous à Dieu. Et continue. Verset suivant. Pour ce qui est des prophètes, c'est pareil. Il a dû leur dire quoi ? Que deux ou trois parlent. Pourquoi ? Parce que tout le monde parler et empiéter sur ce que faisait l'autre. Il n'attendait même peut-être pas que l'autre finisse, que l'autre est déjà en train de parler et commencer. Et que les autres, quoi ? Jugent. Parce que c'est bien une parole qui vient de Dieu. L'esprit des prophètes est soumis. C'est ça, l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Et ils doivent se juger. Ils n'avaient rien, ils n'avaient pas ça pour se juger. Ils n'avaient pas la parole pour voir est-ce qu'il dit est vraiment dans la parole ? Est-ce que ce qu'il dit, c'est conforme à ce qu'enseignaient les apôtres ? Ils n'avaient pas ça. Ils étaient obligés de dire, il faut que les autres jugent quand même. Et on continue. Et c'est un autre qui est assis à une révélation, que le premier se taise. Donc ce n'est pas une cacophonie, il y a un ordre. Et on respecte le travail de tout le monde, le ministère de tout le monde. Lorsqu'il y en a un qui fait quelque chose, on n'est pas là en train de... Et de dire à celui-là, « Ouais, mais tu sais ce qu'il dit là, 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 là. » Il est en train d'enseigner quelque chose. Écoute. Et toi, on se tait. Et il va dire quoi encore ?« Car vous pouvez tous prophétiser successivement afin que tous soient instruits et que tous soient exhortés. » De l'ordre. Chacun a son ministère, que chacun l'exerce, mais pas dans le désordre. Successivement. Afin que tous soient instruits. Si tout le monde parle en même temps, si vous parlez à quelqu'un et commencez à enseigner à la personne alors que l'enseignement est là, est-ce qu'il va entendre l'enseignement ? Non. Mais malheureusement, on est toujours là en train de vouloir parler avec tout le monde qui parle. Alors que la demande, c'est quoi ? Qu'on se taise, qu'on écoute la prophétie qui est là, qu'on écoute la parole qui est annoncée. Il va l'expliquer, verset 32. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Même les prophètes doivent écouter l'enseignement des prophètes. Il n'y a pas un prophète qui dit « Non, moi je sais déjà, lui je ne veux pas écouter ce qu'il a à dire. » Non, les prophètes sont soumis à l'esprit des prophètes, ils doivent écouter. Et la suite nous dit, pourquoi ? Parce que Dieu, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de quoi ? De paix. Comme dans toutes les églises des saints. Est-ce qu'on est dans une église de saints ? On est dans une église de saints ? Bon. Alors vous devrez être d'accord avec ça, à mon avis. Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de quoi ? De paix. Vous savez, le terme désordre, ce n'est pas le désordre dans la chambre. Il y a un autre mot qui peut le rappeler, c'est un esprit de soulèvement ou de trouble. Vous savez ce que c'est un soulèvement ? Il n'y en a jamais en France, des soulèvements. Jamais. Ça n'existe pas. Vous devriez savoir, vous avez dehors ce que c'est. Pas d'accord, pas content, on veut pas remplacer le Macron, démission. Et on est là parfois quand on regarde, on dit, oh non, lui qu'on le remplace, démission, démission. Vous savez, quand Paul va amener l'enseignement, il va parler à ces prophètes qui vivent dans le désordre, ces prophètes qui ont des rivalités, des divisions, mais il leur dit pas démissionner. Il leur dit pas démissionner. Il dit quoi ? Pratiquez l'amour. Quelque chose que vous n'avez pas compris. Il les édifie. Et c'est ce qu'on devrait toujours faire quand quelqu'un a des difficultés dans un ministère ou des difficultés quelque part. On n'est pas là pour évincer les gens. On est là pour quoi ? Pour les édifier. C'est-à-dire pour que dans leur ministère, ils puissent comment ? Grandir. Et on devrait le faire parce qu'on aime, parce qu'on a été aimé ainsi. L'amour est bon et patient. Vous croyez que Dieu est patient avec nous ? Il est bon avec nous. S'il n'était pas bon et s'il n'était pas patient, c'est que pour nous. Et nous, nous sommes plus royalistes que le roi. C'est ça, Vous savez, c'est comme cette personne à qui on a remis sa dette. Et puis il a rencontré quelqu'un qui lui devait une dette. Donne-moi. Alors qu'il vient de lui, on va lui remettre quoi ? Sa dette. Et nous, si nous sommes au Seigneur, on nous a remis notre dette. Soyons bons et patients. Si quelqu'un fait une faute, l'amour couvre une multitude de fautes. C'est ce que fait Paul. Il n'est pas en train de les condamner, il veut qu'ils reviennent sur la voie par excellence. Et c'est ce que nous devons chercher dans notre Église. Lorsque vous voyez quelqu'un qui est en faute, ramenez-le dans la voie par excellence. Vivez cette voie par excellence. Mais il ne s'agit pas de condamner. Les prophètes avaient des problèmes spirituels. Mais Paul pouvait se charger de ses problèmes. En 12:28, Corinthiens, il nous est dit, Corinthiens 12:28, Dieu établit dans l'Église, premièrement qui ? Les apôtres. Deuxièmement, les prophètes. Troisièmement, les docteurs ou enseignants. Ensuite, ceux qui ont des miracles, dont de guérir, secourir, gouverner, parler diverses langues. Mais il a quand même établi un ordre. Premièrement, ça veut dire que c'est d'abord. D'abord qui ? Les apôtres. Donc si les prophètes parlent, qui prévaut sur ce que disent les prophètes ? Les apôtres. Et si les enseignants, docteurs parlent, qui prévaut sur ce qu'ils disent ? Les prophètes et les apôtres. C'est pour ça qu'un enseignant peut se tromper, mais ce qui prévaut, c'est... Et je ne connais aucun enseignant qui ne s'est jamais trompé. J'en connais pas. Ça n'existe pas. Pourquoi ? Là où ça ne se trompe pas, c'est apôtre et prophète, et c'est dans la Bible. L'enseignant n'est pas exempt de faire des fautes. Je le sais. Hein. Vous savez, même moi, quand j'écoute des vieilles prédications, moi, je leur dis, mais qu'est-ce que tu racontes, là ? Parfois, je fais ça. Mais pourquoi ? Parce que l'on grandit. Et heureusement que l'on grandit et qu'on est édifié. Si on était toujours le même depuis le début, c'est un peu triste quand même. Et il y a encore beaucoup devant. Mais c'est ça l'Église. Une assemblée de pécheurs rachetés. Une assemblée de pécheurs vivant la grâce de Dieu. C'est ça l'Église, non ? Alors ne vous étonnez pas, on est tous comme ça. Et Paul... Lorsqu'il regarde sa vie, il sait qu'il a été racheté, il sait d'où il vient. Donc quand il le regarde là en train de se disputer, se quereller, il dit « Quand j'étais comme ça avant, c'était dur, j'aimais pas les gens, je détruisais les chrétiens. » Et il était païen, il était juif, pardon. Paul est messager de Christ. Et lorsqu'il amène cette parole, verset 14, 37, chapitre 14, 37, il n'amène pas cette parole comme un conseil. Il dit, si quelqu'un croit être prophète, il est apôtre au-dessus des prophètes. Si quelqu'un est prophète, croit être prophète ou spirituel, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. Il l'a placé très haut, la barre, il n'a pas dit, et l'avis d'un apôtre. Il a dit, c'est un quoi ? Un commandement du Seigneur. Si donc vous ne le mettez pas en pratique, vous désobéissez à qui ? Au Seigneur. Et si vous êtes prophète, vous savez que je suis apôtre. Et que qui m'a envoyé ? C'est Jésus-Christ. Et c'est ce qu'il est en train de leur dire. Vous savez que cette parole est la parole de qui ? De Dieu. Lorsque vous y désobéissez, ce n'est pas à Paul que vous désobéissez, ce n'est pas au prophète, ce n'est pas à moi, ce n'est pas à quelqu'un dans l'assemblée. C'est à qui ? C'est au Seigneur. Et nous avons besoin des commandements du Seigneur. Pourquoi ? Pourquoi ? Nous dit Jean. Celui qui garde ses commandements, l'amour de Dieu, est parfait en lui. Si vous gardez ça, l'amour de Dieu est parfait en vous. C'est le commandement du Seigneur. Et il enseigne les prophètes à aimer. Comment ? En gardant la parole. Nous nous approchons, vous savez, de la fin de cette lettre aux Corinthiens. Il reste deux chapitres. Et lorsqu'on survole le problème des Corinthiens, c'est le désordre. Et... ce désordre, parfois, il est dans l'assemblée, mais il déteint même dans les foyers. Le verset 34, qui est avant, il est passé, mais on va revenir. On peut se dire, mais qu'est-ce que ça vient faire là-dedans ? Que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises, comme le dit la loi. Suivant. Si elles veulent s'instruire ou sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est malséant à une femme de parler dans l'église. Est-ce que de chez vous que la parole de Dieu est sortie, ou est-ce à vous seul qu'elle est parvenue ? Cette parole peut avoir l'air dure, hein ? Mais rappelez-vous quand même ce qu'il a dit avant. Christ est chef de l'homme, l'homme est le chef de la femme, et Dieu est le chef de Christ. Quand vous avez un problème. Et il semble que cette femme n'avait pas l'air très d'accord avec son mari. Et elle préférait s'instruire où ? Directement dans l'assemblée. Peut-être que son mari était de Paul et elle, elle était de Pierre, d'Apollo. C'est dans la maison, c'était « Ah, mais toi, tu es toujours ceci, moi, j'ai toujours cela, ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta, et personne n'est d'accord. » Mais il lui dit quoi ? Non, 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 rentre chez toi et prends l'enseignement de ton mari. Et pourquoi ? Parce qu'il y a un ordre. Parce que il a plu à Dieu de mettre une personne qui prenne la responsabilité dans ce foyer. C'est qui ? C'est le mari. Comme dans une église, il plaît à Dieu de mettre des personnes dans différents rôles de responsabilité, autre chose. C'est normal. Il y a des ordres. Et l'ordre est établi par qui ? Par Dieu. Mais si on n'accepte pas l'ordre établi, c'est le désordre. Et le désordre, c'est quoi ? Tu peux dire ce que tu veux. Moi, je vais voir un tel pour qu'il me dise, voilà, c'est quoi la réponse ? Je ne suis pas d'accord avec toi. Et moi, je vais faire comme ça. Moi, je vais faire comme si. Vous savez, quand vous regardez dans la Bible, parfois vous vous dites, pourquoi est-ce qu'il l'a suivi ? Il avait tort. Quand je vois Sarah qui suit Abraham, je me dis, il fait faire n'importe quoi là. Il l'envoie, il ment, il fait ceci, même c'est pas bien ce qu'il fait. Mais jamais, au grand jamais, Dieu n'a blâmé Sarah pour ça. Au contraire, il dit quoi ? C'est d'elle dont vous êtes les filles. Parce que Dieu a toujours protégé Sarah, malgré les bêtises d'Abraham. Et ici, c'est pareil. Vous avez le droit de ne pas être d'accord, mais vous devez suivre. Et dans un endroit où il y a un responsable, on n'aime pas ça en France, on n'aime pas ça où que ce soit, on n'aime pas l'ordre. Et je crois qu'en France, on est vraiment des champions. On est quand même des champions. Dès que quelqu'un établit l'ordre, oh non, on l'a voté pour lui, mais dès qu'il est là, sort de là. Tout le temps, hein, tout le temps, c'est toujours comme ça. Mais c'est vrai tout le temps. Dans tout ce que l'on fait, on choisit, elle a dit « Ah, je l'aime, je veux me marier », et 4 ans après, oh non, hein. Et c'est comme ça, on est toujours en train de ne plus respecter l'ordre qui est là. Et Dieu nous appelle à ne pas vivre dans le désordre, mais dans quoi ? Dans la paix. Pas dans le soulèvement, pas dans le trouble, mais dans quoi ? Dans la paix. Est-ce que vous êtes en paix avec les gens ? Est-ce que vous êtes en paix avec Dieu ? Est-ce que vous êtes en paix où vous avez toujours un cœur à vouloir vous soulever. Le cœur de l'homme veut toujours se soulever. L'orgueil. Je ne suis pas d'accord. Vous ne pouvez pas être d'accord. En attendant, c'est la volonté de Dieu. Et il faut obéir. Et c'est après qu'on comprend ce que c'est que l'amour de Dieu. Pas avant. C'est celui qui garde la parole. Ça veut dire qu'il faut d'abord quoi ? La garder. La voie pour parvenir à la sainteté, c'est l'amour, c'est l'édification de tous. Si un don existe dans une église, il doit être utile à tous. Voilà pourquoi certains dons ont disparu. Quand ce qui est parfait est là, pourquoi voulez-vous des choses partielles ? Pourquoi ? Revenir à ce chose qui leur manque, et nous on a quelque chose de complet ? L'amour, ce n'est pas de faire ce qui nous plaît. L'édification, c'est d'agir selon le commandement de Dieu. L'apôtre Paul, le messager de Christ, vient de dire quel est le commandement du Seigneur. Ne vivons pas dans le désordre. Ne nous soulevons pas contre ses paroles, mais vivons dans la paix. Le don de prophétie amène à le message éclairé de Dieu, celui qui permet d'édifier. Et c'est celui qui est le plus important, c'est ce qu'il dit. Et voyons-nous toujours par rapport à cette prophétie, par rapport à ces paroles, par rapport à cette épître. Nous sommes proches de la fin de cette épître, mais moi j'aimerais que chacun se dise « Où est-ce que j'en suis par rapport à tout cet enseignement ? Où je suis par rapport à l'Église ? Comment est-ce que j'aime cette assemblée ?» Nous avons vu comment le Seigneur nous a aimés. Il veut que nos vies soient conformes à la sienne, la vie éternelle. Paul a dit « Imitez, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ ». Donc, il nous donne même tout ce qu'il faut faire dans la vie de Christ. Comment on doit le pratiquer ? Mais quelle réponse amènerons-nous ? Je termine, je lis ça pour conclure. Versets 39 et 40. Ainsi donc, frères, aspirez au don de prophétie et n'empêchez pas de parler en langue. Mais que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. C'est un commandement de Dieu. L'ordre, ce n'est pas quelque chose qui est... Les gens diraient l'ordre, c'est du légalisme. Non, l'ordre, C'est ce que Dieu demande. L'ordre sans ordre, ça s'appelle comment? Ça s'appelle quoi? C'est quoi le terme? C'est le chaos, non? C'est le chaos, non? Ni Dieu, ni maître. C'est le chaos. Et dans une église, on ne peut pas dire ni Dieu, ni maître, quand même. Ne ramenons pas le chaos, comme les Corinthiens, mais que l'ordre établi par Dieu soit honoré de tous. Amen. Prions. Seigneur, nous voulons être simplement humbles devant cette parole. Nous voulons nous humilier. Nous ne voulons pas, Seigneur, regarder ni à nos désirs, ni à nos aspirations personnelles, ni, Seigneur, à quelque chose qui pourrait, Seigneur, nous faire du mal. Nous voulons regarder simplement l'intérêt des autres, comme toi, tu as fait. Apprends-nous cela. Apprends-nous à aimer. Apprends-nous à regarder les frères et les sœurs comme des personnes que tu as aimées, pour lesquelles tu es mort. Que, Seigneur, nous apprenions à nous dépouiller. Seigneur, nous sommes tellement loin de te ressembler. Nous sommes tellement petits, face contre terre. Tu es tellement élevé. Mais Seigneur, je sais que tu veux nous élever. Seigneur, que tes commandements sont bons. Durs à comprendre, mais lorsque nous les mettons en pratique, quelle bonté, quel amour, quelle joie d'être dans l'assurance de ces promesses. Merci mon Dieu, parce que chacun de ces mots, chacune de tes promesses, lorsque nous nous y accrochons, elles s'accomplissent. Et Seigneur, nous le savons, nous le voyons, parce que nous constatons ta fidélité de jour en jour, d'année en année, et cette année nouvelle, nous savons que tu seras encore fidèle. Nous savons que si nous mettons en pratique ta parole, nous te connaîtrons encore mieux. Merci mon Dieu pour cette assemblée. Merci parce que c'est le nom de Christ qu'elle publie. Merci parce que Christ crucifié est notre fondement. Que Seigneur, ceux qui rentrent dans cette assemblée puissent saisir cette espérance qui vient de ton sacrifice, qui vient de tes souffrances, qui vient du don que tu as fait. Merci pour cet amour. Tu as aimé, tu as donné. Et pas peu, mais tu as donné ton Fils unique. Tu as donné cette vie parfaite. Seigneur, je te loue qu'aujourd'hui encore, tu nous as fait contempler cette vie parfaite que tu désires nous donner. Une vie d'ordre, une vie de paix. Une vie non pas dans les guerres, non pas dans les querelles, non pas une vie qui déchire nos âmes, mais une vie qui console nos âmes, qui exhorte notre âme, qui nous édifie. Merci Seigneur, parce que ce sont des paroles de prophétie que tu as annoncées à ces personnes qui étaient imparfaites, mais ta parole, elle est parfaite. Merci Seigneur, parce que tu sais te glorifier dans des vies imparfaites que sont les nôtres. Merci Seigneur pour ta patience, merci pour ta bonté. Que Seigneur, chacun puisse contempler cela, t'adorer pour cela. Nous te remettons le reste de ce culte, Seigneur, les chants, les cantiques qui seront donnés, mais aussi nos conversations après ce culte, que ce soit toujours pour l'exhortation, l'édification. Que chacun, Seigneur, puisse garder cette part que tu as donnée. Et que ta gloire, Seigneur, puisse resplendir au milieu de nous, lorsque les personnes rentrent dans l'assemblée. Merci Seigneur pour ton amour, et que la gloire te soit réservée au siècle des siècles. Amen.
Amen.